VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 14 mars 2022. En direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Claire Morin-Gibourg.
Pour commencer, les titres.
Au Burkina Faso, une dizaine de gendarmes ont été tués, plusieurs portés disparus dans une embuscade hier dans la région du centre-nord.
Le Mali interdit les mouvements de civils dans la zone frontalière avec la Mauritanie où ont disparu un certain nombre de Mauritaniens début mars.
Au moins 75 morts et 125 blessés. C'est le dernier bilan de l'accident d'un train de marchandises chargé de passagers clandestins dans la province de Lualaba, en RDC.
L'armée russe a bombardé dimanche une base militaire ukrainienne toute proche de la Pologne, membre de l'OTAN.
Et un haut responsable ukrainien a déclaré que la capitale Kiev était désormais une ville en état de siège.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal.
La situation sécuritaire continue de se dégrader au Burkina Faso où dimanche, des attaques ont été signalées dans le centre-nord. Une dizaine de gendarmes ont été tués dans une embuscade dans cette région. Auparavant, c'était un car de transport qui avait sauté sur une mine artisanale dans la même région, faisant des morts et des blessés. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré fait le point.
Des gendarmes ont été tués dimanche dans une embuscade sur l'axe Okaya-Dori, précisément entre Pisila et Taparko, dans le centre-nord. C'est ce qu'a révélé dimanche soir l'agence d'information du Burkina, qui n'a pas donné de chiffres. Mais plusieurs sources sécuritaires locales évoquent au moins une dizaine de gendarmes qui ont péri dans l'embuscade. Une source sécuritaire a confirmé à VOA le nombre de 13 gendarmes tués. Plus tôt dimanche matin, sur le même axe Kayadori, toujours dans le centre-nord, au moins 2 personnes ont été tuées au passage d'un car de transport sur une mine artisanale. L'attaque a fait aussi des blessés. Selon l'agence d'information du Burkina, un camion remorque transportant des marchandises a sauté le 10 mars dernier sur une autre mine artisanale dans le village de Bouanga, entre Pisila Toguri, toujours l'axe Kayadori. L'axe Kayadori est sur la route nationale numéro 3. Et depuis le début de la crise sécuritaire au Burkina Faso, ce sont les toutes premières fois que cette route nationale est visée par des engins explosifs improvisés, selon le quotidien d'État citoyen. Dimanche nuit, les autorités n'avaient pas encore réagi sur ces incidents signalés dimanche matin. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les autorités maliennes ont annoncé dimanche interdire la circulation de civils dans la zone frontalière avec la Mauritanie où ont disparu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de Mauritaniens début mars. Le point avec Gaby Dorsil.
Le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé dimanche dans un communiqué que les autorités militaires avaient décidé d'interdire strictement toute circulation de personnes civiles dans les zones de la forêt de Ouagadou et de Gringalé, dans le secteur où ont disparu les Mauritaniens. Une enquête a été ouverte par le tribunal militaire de Bamako selon le communiqué. Ces disparitions, 2 mois après la mort de 7 Mauritaniens sur le territoire malien début janvier, ont provoqué la crispation de la Mauritanie qui a ouvertement accusé l'armée malienne d'actes criminels récurrents contre ses ressortissants. Le Mali a dépêché vendredi et samedi une mission en Mauritanie pour tenter d'apaiser la situation. Selon un communiqué commun publié samedi, les deux pays ont convenu de créer une mission conjointe chargée d'élucider ces disparitions.
Mali toujours. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux depuis dimanche montre un homme qui semble être le journaliste français Olivier Dubois, otage d'un groupe djihadiste depuis près d'un an et qui s'adresse à ses proches et au gouvernement français. L'homme apparaît en bonne santé. La provenance de cette vidéo non authentifiée d'un peu plus d'une minute et la date à laquelle elle a été tournée sont inconnues.
En République démocratique du Congo, un accident de train jeudi soir dans le sud-est du pays a fait 75 morts et 125 blessés, selon un nouveau bilan établi dimanche par l'entreprise publique de transport ferroviaire et diffusé par le ministère de la Communication. Rosine Mounezero.
À l'issue d'une visite sur le lieu du déraillement dans la province de Lualaba, le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, Fabien Moutombe, a communiqué le bilan officiel de 75 décès et 125 blessés, dont 28 avec un traumatisme grave orienté vers les centres médicaux spécialisés a indiqué sur Twitter dimanche en fin de journée le ministère congolais de la communication. Le précédent bilan établi samedi faisait état d'au moins 60 morts, hommes, femmes et enfants, et 52 blessés. Le convoi accidenté composé de 15 wagons était un train de marchandises, mais à bord duquel avaient pris place plusieurs centaines de passagers clandestins, avait précisé samedi Manyonga Dambo, directeur chargé des infrastructures. Les raisons de l'accident n'ont pas été précisées par les autorités. Monsieur Moutombe est attendu à Kinshasa lundi pour d'autres dispositions pratiques liées à la gestion de dégâts causés par ce drame, a ajouté le ministère, qui avait annoncé quelques heures auparavant le déplacement sur place du patron de la Société de chemin de fer du Congo avec les membres de la commission d'enquête.
Au Gabon, Ali Bongo Ondimba se dit prêt à se représenter à la présidence à la fin de son second mandat. À l'occasion du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais au pouvoir, M. Bongo a annoncé qu'il serait là pour poursuivre le travail commencé.
Il s'agit là d'une réponse clairement adressée à ses adversaires politiques qui parlent d'incapacité depuis qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2018. Le Gabon organise sa présidentielle en 2023. Recueilli par notre correspondant à Libreville, Ismaël Obangzie, voici un extrait de la déclaration du président Ali Bongo Ondimba.
Chers camarades, 2023 approche à grands pas. Je serai là avec vous. Je serai là avec vous pour vous. La seule issue sera la victoire. Une victoire franche, nette, indiscutable. Pour que le travail commencé soit achevé. D'ici là, je vous demande à toutes et à tous, dans chaque ville et chaque village du pays, dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque maison, de porter haut et fort le message du PDG.
Le président gabonais, Ali Bongo Ondimba.
La junte au pouvoir au Tchad a entamé dimanche au Qatar des négociations longtemps retardées avec d'innombrables groupes rebelles. À l'ouverture des pourparlers à Doha, le premier ministre civil du Tchad, Albert Pahimi Padake, et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont affirmé que des concessions seront nécessaires pour la réussite des négociations.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée russe a bombardé hier une base militaire ukrainienne toute proche de la Pologne, pays membre de l'OTAN. L'armée russe dit y avoir éliminé jusqu'à 180 mercenaires étrangers et une importante quantité d'armes étrangères. Selon un responsable ukrainien local, seuls des Ukrainiens avaient été tués.
Cette base accueille une partie de l'aide militaire étrangère depuis l'invasion russe et ces dernières années, elle a servi de terrain d'entraînement aux forces ukrainiennes sous l'encadrement d'instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens. Les frappes russes, selon le gouverneur de la région, ont fait 35 morts et 134 blessés.
Le journaliste américain Brent Renaud, photographe et réalisateur indépendant de 50 ans, a été tué et un autre blessé par balle hier à Irpin, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, théâtre de violents combats depuis plusieurs jours. Les autorités ukrainiennes ont rapidement accusé les Russes d'avoir tiré sur les journalistes, mais l'origine des tirs était difficile à établir dans l'immédiat.
Les troupes russes cernent de plus en plus Kiev. Présentes dans les faubourgs, elles cherchent à éliminer les défenses à l'ouest et au nord de la capitale. Après avoir détruit samedi l'aéroport avoisinant de Vassilkiv, selon les Ukrainiens. Pendant ce temps, à Mariupol, stratégique du sud-est assiégé et pilonné par les Russes, le bilan dépasse les 2000 tués selon les autorités. La population manque de tout et le CICR a mis en garde contre un scénario du pire.
Sur le front diplomatique, les deux parties ont annoncé pour ce lundi une nouvelle session de négociations par visioconférence. Hier, un négociateur russe a fait état de progrès significatifs dans ses pourparlers, tandis qu'un conseiller du président Volodymyr Zelensky a dit que Moscou avait cessé de lancer des ultimatums à Kiev et commencé à écouter attentivement les propositions ukrainiennes. La Minute Éco avec Rosine Mounezero.
Le Nigeria va soutenir le développement du contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière du Sénégal, rapporte l'agence Ecofin. L'accord qui définit le cadre du partenariat entre les deux pays fait suite à la tenue à Lagos de la première édition du Forum d'investissement sur le contenu local africain. Une conférence qui a entre autres traité des difficultés qui freinent le financement et la valorisation des ressources en hydrocarbures dont dispose le continent. Le département américain du commerce a annoncé vendredi l'interdiction des exportations de produits de luxe à destination de la Russie et du Bélarus en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Une nouvelle intervenue après que le président Joe Biden a annoncé l'exclusion de la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial. L'Union européenne et le G7 se sont par ailleurs joints à Washington pour évoquer le statut dit de nation la plus favorisée dont bénéficie Moscou, qui facilite le libre-échange de biens et services. En réponse aux sévères sanctions adoptées par les Occidentaux, la Russie a interdit l'exportation de certaines marchandises et équipements. Le pays devrait de plus suspendre ses exportations d'engrais. Cette décision intervient alors que les prix mondiaux des denrées alimentaires atteignent des niveaux records et que les fabricants d'engrais européens ont du mal à produire des nutriments avant la saison de croissance du printemps, ce qui accroît les risques d'inflation alimentaire mondiale, selon John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau.
Merci Rosine. À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence avec du football, la Ligue des champions en Afrique, quatrième journée de la phase de poule.
Oui, et on connaît déjà les premiers qualifiés pour les quarts de finale, notamment le Mamelodi Sundowns, vainqueur 1-0 des Égyptiens d'Al Ahly du Caire dans le groupe A. Comme il y a 15 jours, les Sud-Africains ont pris le meilleur sur le tenant du titre et valident leur ticket, tout comme le Petro Atlético de Luanda dans la poule D. Son succès de 3-0 dans le derby angolais face à Sagrada Esperanza qualifie aussi le Wydad de Casablanca qui est allé battre 1-0 le Zamalek du Caire.
Coup d'arrêt en revanche pour l'autre club de Casablanca, le Raja.
Tout à fait. Le club marocain a concédé sa première défaite après avoir allié 3 victoires d'affilée. Battu 2-1 à Conakry par le Oroya. Les Aigles Verts sont toujours en tête du groupe devant l'entente de Sétif, vainqueur 2-0 des Sud-Africains d'Amazulu. Et puis, dans la poule C, deux clubs partagent la première place avec 8 points. L'Espérance de Tunis qui est allé gagner 2-0 à l'Étoile du Sahel et les Algériens du Sierra Belouizdad, facile vainqueur 4-0 des Botswanais de Galassi.
L'autre Coupe d'Afrique des clubs Élysée, c'est la Coupe de la CAF. Quatrième journée également des matchs de poule.
Exactement Idrissa. Et Pyramide FC d'Égypte domine toujours le groupe A malgré son nul 1-1 à Sfax. Son dauphin, Al Ahly Tripoli, s'est imposé sur la pelouse des Zambiens de Zanaco 3-2. Dans la poule B, ce sont les Sud-Africains d'Orlando Pirates qui sont en tête avec 9 points. 2 de plus que les Algériens de la JS Aoura, tombeurs des Libyens d'Al Ittihad.
Les autres temps forts d'hier dans cette Coupe de la CAF.
Le TP Mazembe, accroché 2-2 au Cameroun par le Coton Sport du Garoua, cède la première place du groupe C aux Jésuitiens d'Al Masri qui ont assuré l'essentiel devant les Congolais de l'AS Otoodo. Et puis, dans le groupe D, ce sont les Tanzaniens de Simba, vainqueurs 1-0 des Marocains de la Renaissance de Berkane, qui gardent la tête avec un point d'avance sur les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan qui ont battu les Nigériens de l'US Gendarmerie Nationale à Cotonou, score 2-1.
Du basketball avec les matchs de l'Africa League à Dakar, au Sénégal.
Oui, la conférence Sahara est plus que deux journées et on connaîtra tous les qualifiés pour la phase finale qui aura lieu fin mai à Kigali au Rwanda. Sinon, les Tunisiens de l'US Monasti, ils sont déjà après leur sans-foot. 4 victoires en autant de matchs, la dernière face aux Sénégalais de Dakar Université Club 74-62. Ce soir, ils affronteront leur dauphin au classement, les Rwandais d'Energy Group. Le second match d'aujourd'hui mettra aux prises les Marocains de la SALE, condamnés à la victoire aux Guinéens de Slack qui se sont relancés la veille en venant à bout des Mozambicains de Ferroviário Beira, score 90-74.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'opération Barkhane ne va pas se déployer au Burkina Faso. C'est ce qu'a fait savoir la semaine dernière le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane de passage à Ouagadougou. Dans le pays, les populations ne semblent d'ailleurs pas favorables à une éventuelle arrivée de Barkhane. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le patron de Barkhane, le général Laurent Michon, devant les journalistes, rassure. Il n'y aura pas de redéploiement de Barkhane au Burkina Faso. La force, selon le général français, se retire du Mali et n'a aucune intention de s'installer ni au Burkina, ni au Niger voisin. À Ouagadougou, on n'est pas favorable à une éventuelle implantation de Barkhane dans le pays. Samuel Compaoré est un citoyen.
Actuellement, on ne veut pas la force Barkhane ici, au Burkina. Parce qu'il était au Mali. Au Mali, là, les gens n'ont rien fait. Aider là, c'est depuis qu'ils sont au Mali. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Mali? Les gens n'ont rien fait. Mais qu'est-ce qu'ils veulent venir au Burkina pour faire? Force Barkhane, si les gens là parlent de force Barkhane, actuellement, ça me fait mal. Elle ne fait rien. C'est pour venir ici vous bouffer seulement et garder un côté, profiter, tout.
Aboubacar Boli, un Ouagalais.
Si nous, notre force de défense et de sécurité qui est là, ne peut pas nous protéger, parce qu'on a remarqué que la France n'a jamais réussi sa mission en Afrique. Ça ne nous arrange pas. Il ne vient pas ici cadeau. Forcément, il y a un intérêt. Cet intérêt, on peut prendre ça, renforcer notre sécurité.
Il y a une volonté affichée pour Barkhane peut-être de redéployer ses troupes au Burkina Faso.
Pazien est analyste politique.
Sans demande, Barkhane ne pourra pas redéployer au niveau du Burkina Faso. Nous savons que l'opinion publique de façon générale n'est pas favorable à l'installation de troupes étrangères au niveau du Burkina Faso. Nous savons également qu'au niveau du Burkina Faso, les autorités militaires actuelles tiennent beaucoup compte de l'opinion publique. Donc il n'est pas probable que dans les jours et mois à venir que Barkhane se redéploie au Burkina Faso. Certes, il y a déjà une coopération militaire entre le Burkina Faso et puis la France, donc nous attendons certainement à ce que cette coopération puisse s'accentuer dans le domaine de l'appui en formation, l'appui logistique. Mais nous attendons également peut-être à ce que la coopération puisse se diversifier entre le Burkina Faso et d'autres États.
L'armée française dit cependant rester dans la zone des trois frontières et engagée à lutter contre le terrorisme. Elle pourra assister des armées des pays du Sahel qui manifesteront le besoin. Mais le commandant de Barkhane est clair, ils ne vont pas combattre dans des pays où sont engagés des mercenaires russes, comme déjà au Mali. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le Gabon sort de 2 années de couvre-feu, 2 années de restrictions sanitaires très éprouvantes pour les populations. Le pays avait sans doute l'un des dispositifs anti-Covid les plus sévères sur le continent. Port de masque obligatoire et un accès aux lieux publics conditionné par la présentation d'un test Covid ou d'un pass sanitaire. Autant de mesures levées depuis mercredi dernier dans une annonce télévisée du président Ali Bongo Ondimba. Mais au lendemain de cette décision, la reprise des activités économiques n'est pas encore au rendez-vous, nous dit notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Libreville se relève péniblement d'une longue et difficile période de couvre-feu assortie d'un ensemble de restrictions sanitaires. La période de Covid-19 a bouleversé de façon extraordinaire la vie des citoyens, menaçant leur santé et désorganisant l'activité économique. très prisé par les touristes. Ce village artisanal du centre de la capitale gabonaise a depuis un an enregistré la faillite d'une dizaine de boutiques.
Le box indique, box à Louis, les gens qui sont partis sur Mandiado. Il y a une dizaine de boutiques comme ça fermées, il y en a qui sont partis, elles sont reconverties. Les activités pas florissantes, mais vous n'avez pas le choix.
Ibrahim vient de nous faire visiter quelques stands qui ont dû baisser les rideaux à cause de la rareté des clients. Il fait partie des exposants ayant fait preuve de résilience sur site au plus fort du confinement. Comme lui, plusieurs opérateurs du village artisanal voient jour après jour leur chiffre d'affaires dégringoler.
Ça varie, tu peux gagner 10 000 aujourd'hui, demain 20 000, jusqu'à 30, 50, ça dépend. Vous savez, quand le secteur touristique est fleurissant, tout le monde gagne. Mais quand il n'y a plus de vol, on a stoppé les vols un moment, ça nous a vraiment impacté.
La levée du dispositif anti-Covid ne signifie pas grand-chose pour Alexandre Aubian. Couturier parmi les plus sollicités lors des cérémonies de mariage ou d'anniversaire. Il a connu une traversée du désert pendant l'état d'urgence sanitaire.
Les activités, mariage et autres, on a réduit cela à une très très petite expression. Les gens qui préparaient le mariage avec beaucoup de commandes, des habits et autres, avec le coronavirus lié aux mesures, ce n'est plus le cas.
La preuve d'une crise sanitaire ayant éprouvé plusieurs secteurs d'activité, Cédric Bicoro est un patron de bar aujourd'hui à bout de souffle.
En plus, ce n'est pas facile parce que pour payer la maison, d'abord, c'est d'abord dur. D'abord, on paye chaque gérante à 100 000, la serveuse à 80 000 au mois. Bon, vous pouvez constater l'endroit. Ici, un vendredi, on peut faire plus de 700 000 un week-end.
La suppression des contraintes sanitaires est certes saluée dans l'ensemble, mais les mesures adoptées par le Gabon au début de la pandémie ont davantage fragilisé son économie et provoqué la perte de plus de 12 000 emplois dans divers domaines, dont celui du pétrole, qui représente plus de 80% des recettes publiques de l'État. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
En Côte d'Ivoire, les lampions se sont éteints sur le Massa ce 12 mars à Abidjan. Le marché des arts et du spectacle africain a fait d'Abidjan la capitale culturelle mondiale pendant une semaine. Industrie culturelle et créative, le défi des contenus, tel était le thème de cette 12e édition. Que retenir de ce rendez-vous culturel d'Abidjan, Delphine Boïse, notre correspondante sur place.
Le Massa, ce fut 200 spectacles, 98 groupes artistiques venus de 26 pays, 1600 festivaliers, 196 spectacles, 5 sites délocalisés en plus du Palais de la Culture, avec des innovations telles que le Massa In et le Massa Off. Patrick Hervé Yapi, directeur général du Massa.
Plus de 35 000 visiteurs par jour. La participation des panélistes disposant d'un niveau d'expertise avéré a permis de faire des investigations qui se révéleront extrêmement utiles pour la Biennale 2024 du Massa.
Plus à la ministre ivoirienne de la Culture d'évoquer des paramètres pour booster le secteur. Arlette Badou Nguessan.
La production et la diffusion d'œuvres de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et de leur mobilité en Afrique et dans le monde feront l'objet de concertations avec l'ensemble des acteurs concernés.
Sur place, au Palais de la Culture de Trècheville, visite de quelques stands. D'abord, Laurent Simon, styliste burkinabé.
On parle de pain tissé, 100% coton bio du Burkina Faso. C'est une mode éthique.
Solange Okaku de la Côte d'Ivoire, décoratrice maison.
Le Massa cette année, ça a été très impeccable.
Ça permet à la Côte d'Ivoire de mettre en valeur sa culture.
Sur les sites délocalisés, nous sommes ici sur celui de l'espace Figayo dans la commune de Yopougon. Rencontre avec un festivalier.
Naounou Alain, je suis directeur artistique de la compagnie Aricor. Nous allons présenter plusieurs danses de la Côte d'Ivoire. La danse Bla, qui est une danse de l'Ouest. Bolo Super, qui vient de San Pedro. Il y a la danse Komia, de l'Est.
La population a pris d'assaut ce lieu pour vibrer au son de la musique.
En tout cas, on a aimé, ça s'est bien passé.
Nous sommes très joyeux de nous avoir offert un massa comme ça.
La musique, tout comme la danse, adoucit les mœurs. Et cette visiteuse ne dit pas le contraire.
Si ça peut être organisé comme ça chaque année, c'est bon. On se repose d'esprit aussi.
Et pour clore, voici le message zougloutique de l'artiste Assalfo du groupe musical ivoirien Magic System.
Excellent Massa, à tous ceux qui sont venus des quatre coins du monde, la Côte d'Ivoire c'est comme ça. La Côte d'Ivoire c'est le show, la Côte d'Ivoire c'est le bon vivre.
Et à bientôt pour la 13e édition du Massa. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La troisième journée de la Basketball Africa League a été marquée par la première victoire du Dakar University Club dans la compétition. Une victoire importante pour l'équipe du pays hôte qui ne voulait pas terminer sans victoire. Après deux défaites d'affilée, l'équipe de l'université Cheikhanta Diop de Dakar a retrouvé des couleurs grâce au soutien de ses nombreux supporters. Retour sur cette victoire qui permet au Dakar Université Club de rester en vie dans la dernière ligne droite du tournoi. Notre envoyé spécial à Dakar, Arena, Sedina Abagay.
Des shoots, des duels parfois rugueux, des cris de joie, des accolades et des sourires à la fin. Des célébrités sénégalaises, africaines et mondiales prennent du plaisir dans un match de gala organisé à la Fun Zone de la Basketball Africa League. Les stars sont contents d'y participer, comme l'indique Zos, champion sénégalais de lutte avec frappe.
Oui, c'est extraordinaire. C'est un geste à soulager parce que vous savez que le basket n'a pas cette force au Sénégal, en Afrique du moins. Donc c'est pour cela, avec le président Amr Galofal, on a prévu tous les stars viennent soutenir le basketball, le ball. Donc vraiment, il faut que les gens viennent nombreux parce que c'est un geste international, c'est un sport international. C'est à tous les nationales qui sont ici à Dakar Arena. Donc c'est un geste à saluer. Grâce aussi à le président Macky Sall qui fait un travail très bon, très important actuellement sur le football et le basketball.
À quelques mètres de là, les spectateurs font la queue pour prendre une photo avec le trophée de la Basketball Africa League. Les supporters sénégalais espèrent que cette magnifique coupe sera un jour le bien d'un club local. El Hadj est supporter du Duc.
Cette équipe que j'ai vue hier jouer là, j'ai confiance et j'y crois qu'il pourra remporter ce trophée une bonne fois pour tout, pour l'Afrique, pour le Sénégal aussi. Faire une fierté de l'Afrique, de Dakar aussi, surtout aussi de l'Université de Dakar. Car aussi, ça sera une grande fierté, certes, afin que nous, étudiants, bacheliers, qui sont, que poursuivons nos études à l'Université de Dakar, de voir que Dakar Université Club puisse remporter ce trophée. Et c'est quoi, Inch'Allah?
Pour les dirigeants de la Basketball Africa League, il est important de créer des activités autour de la compétition pour permettre à la Ligue d'être un levier économique. Amadou Galofal, président de la BAL.
Ouais, ça doit être, on cherche à créer une véritable ambiance de fête. Parce qu'en fait, c'est ça. On a des fans qui viennent de toute l'Afrique. C'est l'opportunité de voir les villes qui accueillent cet événement aussi exposer ce qu'ils ont de mieux à offrir à ce grand public, que les fans de tout âge puissent venir autour du basket et puis vraiment avoir un produit de divertissement qui leur parle.
D'après son président, la Basketball Africa League veut être une marque de divertissement où la musique, la mode et tout ce qui parle à la jeunesse se conjuguent parfaitement. Sedina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif À votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sédoudia et de Claire Morin-Gibourg. Michel Joseph était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.